Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Eh bien, en cette semaine d'entre-deux-tours, on a le plaisir d'avoir notre consul général de France en Australie, Nicolas Croiser, au téléphone. Bonjour.
Bonjour, Christophe.
Alors, on va parler un peu des modalités de ce qui attendent les Français qui vont voter ce dimanche. Ouais. On sait qu'il y a eu quelques, alors on va dire entre guillemets, quelques couacs dimanche dernier, mais c'était des couacs un peu internationaux. Et c'était bien qu'on accorde un petit peu de temps à ça aujourd'hui pour faire un peu le bilan. Vous, de votre côté, au niveau du consulat, vous tirez quel bilan de l'élection là, au premier tour? Je ne parle pas de l'élection au niveau politique, mais plutôt au niveau organisation, en fait.
Bien sûr. Alors, tout d'abord, la forte mobilisation qui s'est jamais vue a pu effectivement créer des situations inconfortables. Je préfère utiliser ce mot-là que celui que vous avez employé, puisque effectivement on a constaté donc un taux de participation de 48% hein, du jamais vu en Australie contre 32% en 2012, ce qui représente une très forte augmentation, alors que le corps électoral est resté à peu près constant autour de 15 000 inscrits. Donc, bien évidemment, on peut s'en féliciter, tant mieux pour le processus électoral et la démocratie. C'est bien sûr pour nous un défi logistique et de taille. Et comme vous l'avez souligné, ça a pu donc causer en Australie, mais aussi dans le reste des pays du monde, dans les grandes villes, certaines situations d'inconfort, notamment par rapport au fil d'attente. Alors justement, c'est bien évidemment dès le lendemain des élections intéressé à la chose pour pouvoir prendre des mesures et prendre les aménagements nécessaires pour tenter en quelque sorte de fluidifier ces files d'attente. Alors, il y a des mesures malheureusement qu'on ne peut pas prendre. Par exemple, bureau de vote supplémentaire, c'est pas faisable entre deux tours.
Donc là, oui, je vous interromps deux secondes, oui. Parce que on a eu beaucoup de questions sur notre page Facebook de gens qui disent, bon, on prend l'exemple de Sydney, pour pas citer d'autres villes, mais à Sydney, on parle de 3 bureaux de vote. Du fait que l'élection est déjà lancée, vous pouvez pas ouvrir de nouveaux bureaux de vote, c'est bien ça?
Tout à fait. Il n'y a pas de possibilité d'ouvrir un bureau de vote supplémentaire, quel que soit l'endroit, hein, et dans le monde entier d'ailleurs, entre les deux tours. De même, l'ajout ou le dédoublement d'urnes par bureau de vote n'est pas possible, et ça a été d'ailleurs sanctionné dans le passé par le Conseil constitutionnel, et on risquerait alors d'entacher le scrutin de nullité.
D'accord. Le découpage alphabétique également, parce qu'il y a eu des questions par rapport à ce découpage alphabétique. Il est fait comment, le découpage alphabétique? Parce que c'est vrai que c'est pas une queue de A à Z. Non. Il y a une queue. Il y a à Sydney, par exemple, ou encore à Melbourne, il y avait 3 queues.
Tout à fait. Donc le découpage alphabétique, on le détermine en quelque sorte en fonction du nombre d'électeurs inscrits.
Donc c'est arithmétique.
C'est arithmétique, tout à fait. Exactement.
Donc, que ce soit bien clair, il n'y aura pas de nouveaux bureaux de vote. Par contre, il y a quelques mesures qui ont été prises quand même en considération. Vous avez compris un peu le problème.
Bien sûr, logiquement,
ça devrait mieux se passer dimanche.
Sûr. Écoutez, en tout cas, on fait tout notre possible pour justement tenter de prendre des mesures d'aménagement et pour rendre en quelque sorte l'attente moins longue ou plus confortable. Donc, parmi ces mesures, vous avez pu voir que donc on va prolonger d'une heure l'ouverture du bureau de vote à Melbourne et à Sydney. Donc, il y a un arrêté qui a été pris par nos autorités pour pouvoir l'étendre de 19h à 20h, ce qui permettra de mieux répartir et de mieux équilibrer l'affluence sur la journée. En termes de mesures proprement organisationnelles, on va à Melbourne et à Sydney dédoubler les cahiers d'émargement, c'est-à-dire que par ordre alphabétique devant l'urne, donc il y aura en quelque sorte deux files d'attente plutôt qu'une, ce qui permettra en quelque sorte d'accélérer le processus et surtout de pouvoir accélérer le vote à l'urne. D'autre part, on a renforcé le nombre de volontaires qui permettront de justement pouvoir remonter les files d'attente de pouvoir en quelque sorte vérifier que les électeurs ont les bons papiers d'identité et qu'ils pourront en quelque sorte, quand ils se présentent dans des conditions particulières, par exemple des personnes âgées, de pouvoir justement bénéficier de coupe-fil.
Alors on va faire juste un point sur les papiers d'identité, parce que c'est vrai qu'il faut des papiers d'identité français pour voter. Venir avec votre permis de conduire australien ne vous fera pas voter. Et ça c'est important de le rappeler, parce qu'il y a eu beaucoup de temps qui ont été perdus dans ces files d'attente également, parce qu'il a fallu expliquer que c'était pas possible et pourquoi c'était pas possible, etc. Donc il faut bien rappeler les papiers d'identité nécessaires.
Tout à fait. Et donc les papiers d'identité ne peuvent être effectivement que de nationalité française. On l'a mis partout sur nos éléments de communication.
Expiré ou pas, un passeport expiré, ça fonctionne quand même.
Alors, un passeport expiré français, ça fonctionne effectivement, ainsi qu'une carte nationale d'identité. En revanche, donc, tout élément australien d'identité ne peut pas être accepté.
Ça, c'est clair. C'est net. Il faut venir avec vos papiers français.
Donc, toutes les pièces d'identité françaises peuvent être acceptées en cours de validité, sauf le passeport français, la carte nationale d'identité, qui peuvent être présentées en cours de validité ou périmées.
D'accord, donc comme ça c'est clair. Venez avec vos papiers français.
Voilà.
Il y a pas mal de questions autour de... Vous avez mis sur votre site internet, je crois, quelques points. Vous découragez de venir avec vos conjoints qui ne sont pas français ou avec vos enfants. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu pourquoi ? Parce que c'est vrai que... Et je vais juste mettre ça, il y a pas mal de gens qui ont un petit peu protesté là-dessus en disant ça fait aussi partie de l'éducation civique de nos enfants de comprendre ce qu'est une élection par rapport à un pays qui est très loin, la France.
Tout à fait.
Pourquoi c'est un problème ?
Simplement, donc, c'est pas, bien sûr, c'est pas interdit, hein, simplement, on ne l'encourage pas parce que forcément, quand plus de non-électeurs se présentent, plus ça participe à l'engorgement de la file. C'est simplement puisque donc on souhaite et nos concitoyens souhaitent en quelque sorte qu'on puisse fluidifier et améliorer le temps d'attente, ça fait partie des recommandations que l'on met et chacun fera en fonction bien évidemment de ses possibilités.
D'accord. Donc en gros, on peut venir avec les enfants, mais il faut savoir à quoi s'attendre.
Alors, le code électoral, normalement, lui, prévoit que pour entrer dans le bureau de vote, il n'y a que l'électeur. Donc, après, c'est un aménagement particulier. Mais attention, effectivement, je comprends bien l'argument de sens civique, mais c'est aussi important à savoir. C'est-à-dire que quand on vient avec accompagné de personnes non électrices, ça participe, hein, comme je vous l'ai dit, ça participe à l'allongement de la file d'attente et donc au temps d'attente.
D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer que sur place, ponctuellement, il y aura peut-être, je sais pas, de l'eau qui sera distribuée, il fait chaud, quelqu'un de l'ambassade ou du consulat qui va peut-être tweeter la longueur des queues, donc peut-être on peut savoir, ok, bon, ça réduit, ça avance. Est-ce que c'est ça fait aussi partie d'un plan ou pas ?
Tout à fait, effectivement, c'est ce que donc j'encourage hein, tout le monde à lire ce qu'on a mis sur le site internet justement, qu'on a tweeté également, qu'on a mis sur Facebook. À savoir, effectivement, on essaiera de tweeter sur le métrage de la file d'attente, effectivement. Comme ça s'est d'ailleurs passé au premier tour, quand ça s'avère nécessaire, il pourrait y avoir des verres d'eau distribués par nos bénévoles, bien entendu.
D'accord. Allez, j'ai une toute dernière question pour vous, parce que là, on répond vraiment aux questions de nos auditeurs.
Ouais.
Il y a eu pas mal de gens qui ont dit que l'organisation a été faite par rapport à des chiffres de 2002. Est-ce que c'est vrai ? Parce que 2002, ça paraît lointain. Si c'est vrai, ça paraît presque ahurissant.
Non, je pense qu'il y a eu une erreur. En tout cas, c'est pas 2002. On se base sur les chiffres de la dernière élection présidentielle. C'est donc 2012.
Donc 2012, hein. D'accord.
C'est bien 2012. Et donc, comme je l'ai indiqué, en 2012, on avait donc un taux de participation d'environ 32% pour un corps électoral d'environ 15 000 inscrits, un peu moins de 15 000. Et donc là, on est à un taux de participation de 48%. Donc ça a bondi, comme on n'a jamais eu, pour un nombre d'inscrits à peu près similaire, un peu plus au-delà de 15 000 inscrits.
Donc est-ce que ça veut dire que, bon, parce que l'élection au deuxième tour, elle est telle qu'elle est, elle peut être très polarisante. Est-ce que ça veut dire qu'on s'attend à une très forte participation également? Est-ce que, sans faire des plans sur la comète, mais est-ce que vous êtes prêt, en termes de consulat et d'organisation de cette élection, à une très forte participation? Imaginons on atteigne les 60% de participation, est-ce qu'on est prêt?
Comme je vous l'ai dit, on fera de notre mieux. Moi, je ne peux pas prévenir l'avenir, j'en ai pas la capacité, mais on mettra tout en œuvre pour pouvoir accueillir les électeurs et que l'élection se déroule dans les meilleures conditions.
D'accord. Bon, en tout cas, il ne faut pas que ça freine les gens pour aller voter. C'est tellement important d'aller voter. Que vous votiez n'importe quoi ou n'importe où. C'est important d'aller voter. Je crois que c'est le message qu'il faut dire.
Exactement. C'est bien le message. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a intitulé l'article qu'on a mis en ligne et qu'on a mis sur les réseaux sociaux, un article avec tous les conseils et recommandations. Et cet article s'intitule « Je vote au second tour le 7 mai, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est un avis personnel, mais c'est vrai que s'il y a des files d'attente, ben, ça fait aussi partie de l'élection. En France, il y a des...
Bien sûr, exactement. Ça fait partie aussi, malheureusement, du processus. Et puis, après, il y a un certain nombre de bénévoles qui rendront également cette attente un peu plus conviviale.
D'accord. Ben, en tout cas, on espère qu'il y a une très forte participation, la plus grande possible, en tout cas dimanche.
Tout à fait.
Merci, monsieur le consul Nicolas Croiseur. C'était bien important, je pense, de répondre aux questions des Français.
Avec grand plaisir. À bientôt et à dimanche.
Et allez voter. Merci.
Au revoir.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.